Texte en cours.
Texte en cours. Les bulles sonores de texte en cours. 40 minutes d'enregistrement pour faire connaissance avec des paroles inédites et des écritures d'aujourd'hui. 5 bulles sonores pour 5 textes et qui les a écrits. L'extrait d'une pièce, un portrait, une discussion avec un auteur, une autrice, une traductrice. À l'origine de ces podcasts préparés avec tendresse, une pandémie, un second confinement qui ne nous empêche pas de vous faire entendre la sélection de textes en cours 2020. L'esprit du festival reste le même. Des écritures émergentes, des cultures francophones, des extraits d'œuvres encore en cours. Le regard de jeunes artistes, leur façon de prendre la parole, de s'inscrire dans le monde comme il va. Bienvenue dans les bulles sonores.
Texte en cours, les bulles sonores.
Aujourd'hui, troisième bulle du festival Texte en cours 2020. On s'aventure dans la tête d'une ado sentimentale grâce à Nunush Underground de Laure Poudevigne.
De Richard Brautigan. Couteau. Bâtis un mur autour de ton cœur pour que l'amour ne puisse jamais entrer. L'amour est plus cruel que le couteau d'un homme qui tranche la gorge de 4 enfants.
C'était la citation de Laure Poudevigne. En voici maintenant son portrait.
À 6 ans, j'ai voulu ouvrir un restaurant sur le parking de mes parents. J'avais prévu de le financer en vendant des dessins aux voisins. C'est en cours. À 8 ans, j'ai créé une comédie musicale qui s'appelait Les Clochards. Avec ma meilleure amie, on avait imaginé la fourguer à la télévision. C'est en cours. À 12 ans, j'ai commencé une BD qui s'appelait Vengeance. J'ai pensé l'envoyer à Bourgeon qui appuierait sûrement son édition. C'est en cours. À 14 ans, j'ai monté un girls band. On avait prévu de tourner un clip à la piscine de Karine. Je devais être à la basse et au chant. C'est en cours. À 16 ans, j'ai tourné le premier épisode d'une série avec le caméscope d'un ami de mes parents. Ça s'appelait Une journée mouvementée. Je jouais Daisy. C'était parti pour être une sacrée quotidienne. C'est en cours. À 22 ans, j'ai commencé un mois de master de recherche dans l'idée de faire un mémoire sur la littérature érotique du XIIIe siècle. C'est en cours. Après tout ça, j'ai commencé le ukulélé. J'essaie de pouvoir passer plus de 6 accords. C'est en cours. J'ai pour projet d'acheter une maison en Corse et un appartement à New York. C'est en cours. J'ai décidé d'écrire une prochaine pièce jeune public qui s'appellerait Dinosaure. C'est en cours. J'ai un abonnement à la salle de sport, une histoire d'amour et 2 enfants en cours. Je pense à trier mon placard pour de bon. Comme tout le monde, j'ai commencé Ulysse de Joyce et je ne l'ai pas fini. J'aime travailler avec mes élèves, mais je n'aime pas voir que mon esprit va moins vite que celui des lycéens. Plus tard, j'aimerais ressembler à ma grand-mère. C'est en cours. C'est en cours. À force de les regarder crever, j'ai décidé de m'occuper de mes plantes vertes. C'est en cours. J'ai toujours rêvé d'avoir un pick-up. Peut-être que je vais avoir un pick-up pour mes 40 ans. C'est en cours.
Extrait de Nunush Underground. De quoi ça cause ? D'un garçon. Mais aussi d'une fête d'adolescents annulée. Sujet très bête et très banal. D'un recueil de Richard Brautigan emprunté au CDI. Sujet très trivial et anecdotique. De Rose, 17 ans, aimant les drames d'amour, qui s'enfonce dans une aventure égarée avec ceux qui existent, et ceux peut-être pas.
Entrez, Seigneur.
Reine, pourquoi m'avoir appelée Seigneur ? Ne suis-je pas votre vassal au contraire, pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et ma dame ? Un jour, deux hirondelles ont volé jusqu'à notre contrée pour y porter l'un de tes cheveux d'or. Pour le roi Marc, je suis venue te quérir par-delà la mer. Pour toi, j'ai affronté un monstre et son venin. Vois ce cheveu cousu parmi les fils d'or de mon bliot. La couleur des fils d'or a passé, mais l'or du cheveu ne s'est pas terni. Non, tu le sais, Tristan, que tu es mon seigneur et mon maître. Tu le sais que ta force me domine. Par belle représailles, tu as fait cette vantance d'emporter comme ta serve celle que le roi Marc chérissait entre les jeunes filles. Hélas, ce... Iseux, qu'est-ce donc qui vous tourmente ?
Ah ah ! Tout me tourmente ! Tout ce que je vois, ce ciel me tourmente, et cette mer, et mon corps, et ma vie. Elle pleure. Tristan s'approchant. Ami, qu'est-ce donc qui vous tourmente ? L'amour de vous ! Elle l'embrasse. L'amour de vous ! Elle l'embrasse.
Bon sang ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Nom de Dieu, mais qu'est-ce que t'as foutu, Rosie ?
Du rouge. Pourquoi pas ? C'est joli. Enfin, c'est spécial quand même.
Où t'as pris ce putain de rouge ? C'est à ta mère ?
Non, non.
Je ne mets pas de rouge à lèvres.
C'est pas le rouge de maman.
D'accord, c'est pas le rouge de maman. Alors toi, tu as du rouge maintenant.
Ben oui.
Félicitations, Rosie. Par contre, c'est très vulgaire comme idée. Mais tu dois être au courant. Je me demande bien. Tu crois pas pour vrai que c'est ça qui fera de toi une femme ?
Et pourquoi pas ?
Oh, c'est pas permis tout de même. Ça suffit pas de la sainte journée. Faut encore entendre ce genre de conneries à 7h.
Voyons, ma petite fille. Tu sais quel genre de saloperie ça raconte, la peinture ? Alors pourquoi tu fais ça ? Hein ? Pourquoi ?
Elle sait pas, laisse tomber.
Eh ben moi, j'ai ma petite idée. Et je vais quand même la dire si ça dérange pas. Je pense que tu fais ça pour bien faire chier ta mère.
Ouais, ben te frappe pas, hein. Je suis au courant, figure-toi. Je t'ai pas attendu pour savoir qu'elle aurait envie de me foutre à l'ombre dès qu'elle aurait laissé pousser ses nibards. Hein? C'est comme l'anorexie et tous ces bons dieux de conneries de puberté. Tout ça, c'est pour rectifier sa mère, si tu me passes l'expression. Hein. Seigneur, prends pitié.
Bon sang, Rosie, tu vois, là, tu nous emmerdes. Pourquoi tu t'es foutu anorexique à la fin ? Réponds !
Je suis pas anorexique, je vais très bien.
Ben voyons, c'est ce que je me dis quand je t'entends jacter toute seule comme l'autre possédée de Lourdes. Tout va bien, que je me dis, tu penses bien.
À qui tu parles, Rosie ? On t'entend l'ouvrir depuis le salon. C'est des voix dans ta tête, c'est ça ? Je m'en doutais. C'est des névropathies ou je ne sais quoi. Ça sort comme ça, à son âge. Jésus, compte pas qu'on te laisse avec ça, Rose.
Putain de merde, ça te suffisait pas, l'anorexie ? Faut en plus que tu fasses dans le mystique.
Non, non, j'ai pas des voix.
Alors, je t'écoute, parce que tu vois, on peut dire que je suis à bout. Dis-moi très vite que t'es pas cintré ou je suis capable de faire du dégât, là, tout de suite. C'est quoi que t'annonces, bon sang, bonsoir ?
C'est une geste courtoise.
Sainte mère de Dieu.
J'avais prévenu, Rosie, je vais tout défoncer.
Arrête ça, je t'en prie, papa, c'est pour le lycée, c'est Tristan.
Qui ça ?
Tristan.
Oh, tu parles d'un nom. Christian, à la rigueur.
Je connais pas ce mec.
Bien sûr que tu ne connais pas.
Fais attention, Rosie.
Tristan est un être exceptionnel. Il aime une femme comme personne n'a jamais aimé.
Et ensuite, tu me prends pour un connard ? Continue, je te prie.
Seulement, cet amour est impossible. Cette femme, c'est déjà celle de Marc.
Une femme mariée, hein ?
Oui, oui.
Tu m'en diras tant. Ton gars, là, c'est un sac à merde. Je peux te l'annoncer. Il n'y a que les salauds qui se permettent d'aimer quand c'est pas permis. Je vais te dire quelque chose, ma petite fille. Je viens peut-être des quartiers souffrants, mais je vaux pas moins cher qu'un autre. Alors qu'ils viennent pas trop se la ramener, ton Billy joli cœur. Moi, au moins, je fais pas des saloperies avec les femmes des autres.
Oh, tu y es pas du tout, papa.
Je dis ce que je dis.
C'est plus sublime. L'amour leur pousse entre les entrailles, jusque dans la putréfaction.
Jésus m'arrive, Joseph. Je peux pas piffer les nécrophiles.
Cet homme-là va se donner la mort d'amour, si seulement tu réalises.
Eh ben, je vais pas pleurer quand ce fils de pute fera sauter le caisson.
Bien. J'en ai assez entendu pour ce soir. Je pense qu'on devrait tous aller se coucher.
Je veux pas te brusquer, Rosie. Mais je te laisserai pas partir sur la tranche sans moufter. On peut penser que je suis un gueulard, que je donne pas assez de tout ça. Mais je suis là pour toi. Je suis là pour toi, oui ou merde ?
Oui, 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 oui.
Voilà. Allez, couche-toi maintenant. Et va pas saloper les draps avec ton rouge. C'est déjà bien assez avec tes... Bon... Bonne nuit, ma fille.
Ton père travaille comme une bête et il se fait du souci, tu sais. C'est dur pour lui, ta puberté, et puis tous tes emmiellements. Hein. Faut dire qu'on sait pas bien ce qui se passe dans ta tête, Rose. T'as toujours été rare, mais là, t'es sacrément touchée. Hein. Et dans le pathos, encore. Non, y a pas à dire. Tu nous fous le noir. Quand tu étais petite, au moins, tu riais. Tu étais floue, mais charmante, faut avouer. Une mignonne petite, hein. D'ailleurs, c'est simple, tu disais rien. On te traînait partout, Tu regardais le ciel, tu bougeais pas. Mais finis ton sirop, on te disait, arrête avec le ciel. Quand ton père avait des cadeaux du patron pour Noël, on les gardait sur le haut de ton étagère, dans leur boîte, ça nous faisait pour ton anniversaire. Oh, ben, tu les touchais pas. Tu les regardais des heures. Elle est où, Rosie ? Ben, dans sa chambre, elle regarde ses boîtes. Bien sage, hein ? Une fois toute gamine, je t'ai pris dans le train. Il était bondé, seigneur, et il faisait chaud comme pas permis. Une femme s'assied à côté de moi et je te prends sur les genoux, bien obligé. Et toi, tu as joué tout le trajet avec tes tresses, 2 heures comme ça, à les faire jacter entre elles. Que la femme d'à côté, elle tâchait de me regarder bien droit. Mais je voyais bien qu'elle se disait, c'te gosse qui cause à ses couettes. Mais sage, hein. Et puis tu chantais tout le temps. On m'avait dit que tu serais chanteuse. Chanteuse, je me disais. Alors, Nana, je t'appelais pour Nana Mouskouri. Tu vois comme on est loin du compte, hein. T'as pas grand-chose qui chante maintenant, hein, que des calvaires. Ah, tu sais ce qu'on me disait aussi. Elle sera jolie, cette gosse. Et ça me faisait plaisir. Sainte Mère des pauvres, tu es devenue tellement ingrate à l'adolescence que j'aurais pas pensé, hein. Alors, maintenant... Toutes ces saletés pour m'accabler avec Christian ou je ne sais qui, c'est comme qui dirait la goutte qui nous sort du vase. Enfin, à cette heure, tu ferais bien de finir tes céréales. Et sans te faire vomir en plus, hein, je te dis ça, c'est pour toi. C'est pas joli d'être maigre. T'es pas parti pour avoir beaucoup de seins. Alors autant que t'aies un peu de fesses.
Ah, Mickey.
Bonjour.
Bonjour, Michael.
Salut, Rose.
Oui, oui, salut.
Non, vieux Mick, Rose n'est pas dans son assiette ce matin.
Ah,
c'est le moins qu'on puisse dire. Drôle de nuit, hein, Rosie.
On devrait y aller, Mickey.
Elle est à côté de la plaque, ton amie, Mick. Elle marche à côté de ses pompes.
Ah, je sais pas, monsieur.
Prends de la gelée, Mick.
Allons-y.
C'est comme je te le dis, mon garçon.
De la gelée.
Merci.
Elle a mis du rouge hier soir.
Ah.
On est très en retard.
Et tu sais pourquoi ? Pour se pavaner comme une diva des cabanes, comme une fée des trottoirs. Tu saisis ? Voilà pourquoi.
Nous y allons, Mickey.
Avoir l'air d'une petite femme, tu me suis ? Et attention, hein, pas une femme comme toi et moi, non, penses-tu, trop ordinaire. Elle fait dans la première classe, là, la pom-pom girl de Roman X. Je te prie, cocufiage et tout le tintouin.
Bon, eh bien, salut tout le monde, moi j'y vais.
Une femme, Michael, tu connais Rose depuis toujours. Tu sais qu'elle n'est pas ça.
Elle n'est pas ça ? Une femme ?
Ben voilà, Rose n'est pas une... Non. Bon sang, Mick, qu'est-ce que tu me fais dire ? Joue pas sur les mots, mon garçon. C'est une fille, pour sûr. C'est même la seule que j'ai. Elle est pas trop mal, j'en conviens, mais le problème, il est là. C'est bien pour ça que je veux pas que le premier roufion... Ah, les hommes, je les connais, va. Tu comprends ça, Mickey ?
On aime notre fille, Michael.
Oui.
Et là, ça sent pas bon.
Ça tourne mal.
Ça tourne pas dans le bon sens. Tu me suis ?
Je sais pas.
T'as rien vu ?
Ben non.
Il y a un mec. Comment c'est déjà ?
Christian.
Christian. Ça te parle ?
Christian ?
Ce gars-là lui tournerait la tête que ça m'étonnerait pas. Sors-la de ces histoires d'eau de rose à la con, tu veux ? Fais-lui prendre l'air. Elle me fout les balises avec ses machins salaces.
D'accord, monsieur.
T'as compris, mon garçon ?
Pour sûr.
C'est bien. Reprends quelque chose, Michael.
De la gelée.
Merci, c'est très bon.
Prends-en autant que tu veux.
Allez, à ce soir. Tu nous la ramènes comme toujours, Mick, hein ?
Comme toujours, monsieur. À ce soir.
Entrez, Seigneur Tristan.
Reine, pourquoi m'appeler Seigneur ? Ne suis-je pas votre serf, au contraire ? Je suis venu par-delà la mer. Pour toi, j'ai affronté un dragon. Vois ton cheveu d'or que j'ai bouté à mon fusio, il est doré.
La vache ! Est-ce que tu peux être mauvais ?
Excuse-moi, Rosie.
Ouais, bah concentre-toi, je t'en prie. Samedi soir, je dois tendre entre celui que j'aime et moi un lien d'amour si puissant qu'il nous attachera l'un à l'autre jusqu'à l'éternité. Samedi. Ça te parle ? Alors secoue-toi, vieux.
Te bile pas, Rosie. J'y suis.
Alors nous reprenons. Entrez, Seigneur Tristan !
Reine ! Pourquoi m'appeler Seigneur ? Ne suis-je
pas... Vas-y, Mickey, attache-moi. Il faut que je les sente se planter tes harpons sur mon corps défaillant, rongé de fièvre d'amour. Vas-y, je te dis, harponne.
Je suis pas vraiment dans l'ambiance, là, Rose.
T'es devenu fou ou quoi ? Depuis quand s'occupe-t-on que tu sois dans l'ambiance quand je suis en train de jouer ma vie.
Je sais, Rosie, mais c'est là-bas, elle arrête pas de nous faire chute.
Qu'est-ce que la femme de la bibliothèque vient faire là-dedans? Tu crois que j'ai prévu qu'elle soit là à ce moment-là, peut-être? Qu'est-ce qu'elle viendrait faire là quand deux êtres au bord de mourir d'amour vont se parler pour la première fois? Imagine-toi, Mick! Vois-le qui marche à travers la pièce et qui s'arrête! Vois-le avec juste un peu de lumière qui tombe là sur son visage, la lumière poussiéreuse d'avril, filtrant à travers les baies sales et qui s'accroche à ses cils qui battent, un peu roux.
On joue ça, du coup?
Oui! S'il te plaît, Mick!
J'y vais. Ne suis-je pas votre serviteur? Au contraire, je suis venu par-delà la mer.
Intense, Michael, comment veux-tu que je rebondisse?
J'ai affronté un dragon.
Tu me lances des balles lamentables, Mickey. Et moi, je suis censée taper là-dedans pour sceller un amour scintillant et inexpugnable. Quelle misère, je te jure!
J'ai collé ton cheveu à mon habit. La femme fixe Rose.
Sois un glaive, un pieu. Décoche les flèches meurtrissantes de la passion. Que je puisse en labourer mes plaies d'amour. Tu es mou, que tu es mou!
Je suis un cerf.
Dur, précis, Mickey.
Je suis un cerf.
Mais bande un peu à la fin!
Je suis un cerf, je bande! Merde, Rose, ça y est, elle arrive.
Ça va, laisse tomber.
Je suis désolée, Rosie.
Pas tant que moi.
Rose, écoute-moi. J'ai l'impression que tu te trompes.
Ah oui?
Je crois que tu devrais aller le voir tranquillement.
Un adverbe ambitieux?
Mais si. Pour lui demander un truc tout simple, où sont les toilettes pour faire connaissance? Ça resterait une discussion normale, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu vois, pas le genre de discussion avec le câble harponné tout de suite. Une chose comme ça, et puis peut-être que le courant se mettrait à passer, tu vois?
Ouais, ouais. Quel brio, Mick.
Pourquoi pas?
Quel talent. Quel sordide tableau à la petite semaine tu me peins. Quel amour de jus de chiotte, de pisse à la bière chaude.
T'as raison. Peut-être pas lui demander les toilettes. Le frigo, alors?
Tu sais rien. C'est toi qui te trompes. Je te laisse.
Rose, tu vas où?
Oh, nulle part, j'ai été juste avec Mickey.
Ce mec craint, Rose.
Oui, oui.
Ce mec craint vraiment, Rose.
Je sais.
Tu sais pas. Et c'est très dangereux pour toi, pour ta publicité. C'est élémentaire dans ce monde. C'est comme porter un jean de merde. C'est très mauvais pour l'image.
Je le connais depuis toujours.
Oui, et ta grand-mère aussi. Mais elle, tu la traînes pas avec toi au lycée. Tu viens samedi, hein?
Ça, oui, tu penses.
Ouais, mais avec qui, du coup?
Je pensais...
Venir seule. Rose viendra seule. Mauvaise publicité et jean de merde. J'hésitais, tu vois, mais je vais faire ça. Je vais être une gentille cousine, je vais te dire. Faut venir avec quelqu'un, ma pauvre fille. Et pas une fille, un garçon. Pas ton père, Rose. Pas Michael non plus. Un mec. Un mec cool, pas vraiment d'ici. Ça donne. Waouh, Rose vient avec quelqu'un. Attends voir, une meuf? Non, un mec. Tu rigoles? Non, tu vois. Quelqu'un d'ici? Aucune chance. Attends, mais il est hyper... Ouais, il est classe. Vous avez couché, hein?
Excuse-moi?
Bonjour, Rose. Je suis Sandra, je suis en face de toi et je te pose une question.
Oh, excuse-moi. Je pensais que c'était encore ton soliloque.
Mon soliloque? Faut que t'arrêtes de faire flipper les gens, Rose. Alors, t'as couché?
Écoute, je sais pas si je peux exprimer les choses comme ça, tu vois, sans prendre le temps d'y penser. Je sais même pas si dans cet endroit... ça peut avoir lieu d'être.
Arrête, tout le monde s'en fiche de tes pouettes-pouettes de Sainte-Mitouche. C'est oui, tu dis oui, j'ai couché. Et sévère en plus. On n'ira pas vérifier de toute façon. Et là, tout le monde se la boucle et commence à te respecter. À partir de ça, tu peux aller te servir une vodka et envisager qui tu vas cibler.
Qui je vais cibler?
T'es sérieuse, Rose? Je vais pas te faire un dessin. Ne me dis pas que tu vas à cette soirée pour les chips.
Non.
Eh ben tu vois alors, fais ce que je t'ai dit.
Entrez, Seigneur Tristan. C'est lui. Oh, que faire, Rose, que faire maintenant?
Je serai toi, je prendrai un bouquin.
Ah bon? Ah oui, peut-être. Mais je vois pas pourquoi.
Mais peu importe, faut que tu sois quelque chose. Tu as l'air de rien comme ça, t'as même pas l'air d'exister. Alors prends un livre.
Ah oui, oui.
Tu l'aimes, n'est-ce pas?
Je me tuerais pour être avec lui, dans cette allée. À lui caresser le dos de la main.
À marcher le long des rayons, en poussant doucement les couvertures avec les doigts.
À regarder ses cils roux, qui qui battent dans la lumière.
La lumière poussiéreuse d'avril.
Sa voix qui parle à moi, lisant les titres. Sa main un peu moite. Nos pulsations.
Assez rapides.
Parce qu'on va faire l'amour juste en sortant.
Tu pourrais te tuer pour ça.
Je pourrais traverser le lycée à genoux pour un regard de lui.
Je pourrais te porter à travers l'enfer. Et, si tu avais oublié ton chapeau, je traverserais l'enfer à pied pour aller te le chercher.
Mickey ?
Non, Rose, ce n'est pas Mickey.
Monsieur Broman.
Vous l'aimez ?
Je vous demande pardon ?
Ce poète.
Je ne sais pas.
La poésie américaine.
Ah oui, oui, Brötigan.
Je peux te parler, Rose ? Mm-hmm. Oh, juste, tu sais, pour échanger, pourquoi pas. C'est à propos de ton devoir sur Tristan et Iseult. Tu t'es vraiment très investie dans cette lecture.
Oh, je sais plus.
Tu m'as rendu 43 pages. Tu m'as l'air d'avoir lu une quantité impressionnante d'ouvrages d'amour, non, Rose ? Ce n'est pas un grief que je te fais, bien au contraire. Mais gare au bovarisme, tout de même. Bovarisme. De Emma Bovary.
Oh, ne vous fatiguez pas, je connais.
Tu n'es donc pas sans savoir que les lectures romantiques dont elle s'abreuva sont tenues responsables de son destin funeste.
J'aime pas ta façon de parler, Broman.
Je te demande pardon.
Qu'est-ce que tu fais, ça va pas ?
Attends, on va rire un peu.
Rien du tout, monsieur.
Tu as mal pris mes propos, je le vois bien.
Comment oses-tu juger Emma, Broman ?
Ce n'est que littéraire. Que littéraire, Rose.
Oui, oui, arrête ça.
Tu te projettes sur cette femme ?
Oh ça, je pourrais pas dire.
Mais probablement.
Tais-toi.
C'est tout à fait normal, c'est même très beau. Que ça ne nous empêche pas de parler de ses faiblesses. J'aime à partager avec mes élèves une vision critique mais bienveillante des personnages. Alors, ces failles romantiques, qu'en penses-tu ?
Pervers, Broman.
Cette fois, tu vas trop loin.
Ça suffit, j'y suis obligé, tu ne comprends pas. J'ai le revolver sur la tempe. Tu crois que ça me plaît, Rose, de scruter Emma comme on le ferait d'une vipère dans son chloroforme ? Tout ça, c'est à cause d'eux. Ils me disent, Broman, allez-y, mon vieux, analysez, décortiquez, disséquez. Et moi, mais non, foutez-moi la paix, je ne vous répondrai pas à vos questions vicieuses. Et eux, allons, Broman, aimez-la, mon vieux, aimez-la plus que vous-même. Je m'y applique avec terreur. Et alors, ils me sourient et ils soufflent, allez-y, maintenant, suivez-la, faites entrer derrière elle dans les chambres, fouiller, montrer ses lettres, relever ses jupes, offrir à voir les trous dans ses bas. Non, non, je crie, laissez-la, elle est trop fragile, elle est trop douce, je l'aime à présent et c'est à cause de vous. Oh, si tu savais comme je souffre, Rose, quand je vous regarde déshabillée gauchement avec vos doigts sales de lycéen, Emma. Mais il me talonne. Mais ça suffit quoi, Broman ? Secouez-vous un peu, montrez-leur comme elle se débat et comme elle agonise à cause de ses bluettes à dessous de sa coquetterie vaine. Essuyez la bave à ses lèvres, faites entendre ses râles, ses ongles sur les draps. Ça y est, elle est morte. Alors c'est bon, mon vieux, vous avez l'impression d'être heureux. Oh, quelle horreur, je me dégoûte.
Ça va aller, monsieur ?
Il est très ébranlé.
À qui la faute ? Je vous sens très ébranlé.
Mais c'est un personnage, n'est-ce pas, Rose ? C'est une histoire, tu comprends ? C'est une représentation qui nous est offerte par un artiste. Sa souffrance n'est pas réelle. Pense bien à cela, pas réelle. Bien, allez, je te laisse. Pas réelle, mon Dieu, que dirait-elle si elle m'entendait ?
Je vais prendre des raviolis pour ton père. La vie, c'est beaucoup de déceptions, tu verras. Et de la Macédoine. Si tu penses que j'ai ce que j'avais rêvé, ça, on n'y est pas, ma petite fille, tu peux me croire. Pour commencer, je me serais bien réveillée à côté d'un autre homme, si tu vois ce que je veux dire, côté charme et soupir. La mayonnaise, bonté divine, faut que j'aille la prendre à cul du chat. Ah, c'est là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans cette tôle à toujours changer les rayons ? Ton père, j'ai su rapidement qu'il ne me ferait pas grimper au rideau. Ave Maria, même pas au tapis que je grimpe. Seulement, j'ai pas eu le cran de partir à 30 ans, hein, quand c'est que j'avais le courage. J'aurais pris ma valise, direction Palamos, Costa Brava. Et peut-être que j'aurais eu une chance d'être heureuse. Hein. J'aurais ouvert un grill pizza... J'aurais pu rencontrer un homme et on serait parti refaire notre vie dans le Montana. Ouais, le Montana. Ça, ouais, ça m'aurait plu.
Entrez, Seigneur Tristan. que faire. Rose, que faire maintenant?
Tu veux lui parler, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Alors vas-y maintenant.
Mais certainement pas.
Salut.
Salut.
Mais allez, vas-y, reste pas planté. Parle-lui, pourquoi tu lui parles pas?
Si je te parle pas, c'est que je le ferai samedi.
Ah.
Oui, à ta fête.
Tu viens à ma fête?
Oui, oui.
T'es au bahut?
Oui.
Ah ouais.
Dans ta classe.
Ok.
Tu m'as demandé mon effaceur en bio.
En bio? Je sais pas. T'es assise où?
À côté de toi.
Ah ouais.
Rose, sonne patience. Je me confie. Tu vois pas que je me confie?
Excuse-moi une minute, tu veux?
Tu crois que c'est agréable de se confier à une banque réfrigérée, toi? Non, mais si c'est pour marcher 10 mètres derrière, je préfère que tu m'attendes au rayon BD.
Maman, ça fait 10 ans que je t'attends plus au rayon BD.
Ah, excuse-moi. Tu aimes plus les bouquins? Première nouvelle.
Ce sont pas des livres ici.
C'est pas des bouquins, Biléboule?
C'est de l'excrément littéraire.
Compris. C'est de la merde.
Il est encore là.
Bien sûr.
Je vais me mettre à pleurer.
Vraiment?
Oui, ouais. Et alors il me dira, qu'est-ce donc qui vous tourmente? Je répondrai, l'amour de vous, et je l'embrasserai.
Très peu de chance. Aucune, en fait.
Dis donc, c'est pas vraiment tes affaires, tout ça.
Commence par être consistante, ce sera déjà ça.
La barbe.
Tu disais?
Oh, faut pas le prendre pour toi.
Dis donc, Rose, j'y pense. Et dans ce qu'est dit, c'est de la merde aussi?
Excuse-moi, à nouveau, je reviens.
C'est de la merde en promo? C'est de la merde, Rose, que je mets dans le frigo? C'est de la merde où je passe la moitié de mon salaire de merde pour te faire bouffer?
Tu exagères, j'ai pas dit ça.
N'empêche, t'es qu'une pimbèche, Rosie. Tu crois que tu vaux mieux que tout ça, là, avec tes machins? C'est quoi, ça?
C'est Brotigan.
Donne-le-moi.
Doucement, maman, c'est pas à moi, tu sais.
Pourquoi les poètes inconnus restent inconnus? Mais peut-être parce qu'ils font de la merde.
Oh, arrête ça, maman.
Adieu à mon complexe d'Édipe. Pour Noël, je vais offrir à ma mère une bombe à retardement. Ah merde. Je suis crevée. Tu parles d'une sortie entre filles, toi. Oh, j'aurais jamais dû avoir de gosses. Sacrifier autant de choses pour quelqu'un qui a envie de te faire péter la gueule.
Oh maman, pas d'emphase, je t'en prie. Faut pas laisser la poésie américaine t'affecter comme ça. Ceci étant, je crois pas que tu devrais fumer ici.
Ouais, qu'ils y viennent dire un truc, tiens. J'aimerais bien voir ça. La souffrance, ça se respecte encore chez moi. Ils en savent quoi, eux? Rien du tout qu'ils s'en savent de ce que c'est qu'être une mère malheureuse.
Bien voilà, je suis de retour. Que disions-nous?
Je vais y aller, moi.
Excusez-moi, vous n'êtes pas censé fumer ici?
Faut voir avec elle, hein, parce que je suis pas concerné.
Madame, s'il vous plaît, pas de cigarette.
Foutez-moi la paix.
Quelqu'un peut me dire ce qui se passe?
Tout est de la faute à Brotigan.
Qu'avez-vous fait, monsieur?
Dis donc, faut pas être lourd non plus. Je te l'ai dit, vieux, je passais juste par là.
Je pourrais aussi bien dire que tout est de la mienne.
Écoutez, je comprends que vous vouliez couvrir votre ami, mais s'il y a eu un incident dans cette allée, vous devez me le dire, je dois faire un rapport, moi.
Oh là là, ça va commencer à me chauffer. Je suis pas son ami, mec. Je venais juste de la croiser et là, j'étais en train de me tirer. Sauf que si tu continues à me chercher, je vais te secouer un peu avant.
Jeune homme, nous sommes tous très affectés par la situation, mais votre agressivité ne changera rien. Pourquoi cette femme est-elle à terre?
Je pourrais finalement dire que c'est à cause de la vie qui est décevante.
Alors là, je me permets d'intervenir. Il y a erreur de raisonnement. La vie n'est pas un ticket pour la foire du trône. Elle n'est pas là pour promettre du fun. Partant de là, elle ne saurait être décevante. Vous n'êtes pas d'accord, jeune homme?
C'est quoi ton problème? T'as décidé de me prendre la tête? Je me tire avant de t'en coller une.
Alors ça ne vous intéresse pas? Cette femme au sol qui fume au rayon biscotte, ça ne vous intéresse pas? Vous ne vous dites pas, mais qu'a-t-elle? Pourquoi fait-elle ça à la fin? Pourquoi faites-vous ça, madame?
Je suis désespérée. Quand je suis désespérée, je fume.
La réponse est claire, au moins. Madame, ne croyez pas que je tienne le désespoir pour peu de choses, mais si tous les gens désespérés se mettent à fumer dans le magasin, je vais perdre ma place.
Tu sais ce que c'est qu'une mère?
À peu près, oui, j'ai l'image.
Non, t'as l'image. Et les hémorroïdes post-accouchement, t'as l'image aussi?
Pas plus que ça.
Je m'en doutais. Rien du tout que t'en sais ce que c'est qu'une mère. Je finis ma clope.
Madame, cette conversation me stimule au plus haut point, mais tel que vous le voyez, je vais devoir appeler la sécurité.
Mais vas-y, mon garçon, appelle, choisis ton putain de camp, vas-y, tire dans la poitrine d'une mère.
Ne le prenez pas comme ça.
Dommage qu'on soit au rayon biscotte, parce que là, je suis d'humeur à me descendre un litre de Javel. T'aimerais ça, mon garçon, sur ta conscience, que je me crève dans ton rayon.
Richard Brotigan considéra un jour que c'était le bon pour mourir.
Je ne vous félicite pas pour vos idées macabres, jeune homme. Cette dame a besoin de tout sauf de ça. Et si elle passait à l'acte?
Et si je te faisais bouffer des crisprances par le nez?
Bon, ça suffit. En tant que responsable du rayon, je vais prendre la décision que personne ici n'ose prendre. Monsieur Beautrigan, vous devez surveiller cette dame, tandis que j'appelle la direction.
Ça fait 3 fois que je te préviens, du coup. Maintenant, je vais frapper. J'ai rien à voir avec cette nana, alors je vais rien du tout. Et je t'en colle une, en plus.
Cette situation devient intolérable. Madame, maintenant, vous éteignez votre putain de clope.
Mets-toi ta gueule, le grouillon.
Cette fois, j'appelle.
Extrait lu par Cyril Amiot.
Hélène Debissy.
Benjamin Duc.
Mathilde Jaillette.
Dag Jeanneret.
Sylvère Santin.
Anne-Juliette Vassor.
Marie Vire.
Texte en cours, les bulles sonores.
Bonjour, c'est Tech en cours numérique, encore une fois. Aujourd'hui, Tech est en conversation enregistrée via Skype avec Laure Poudevigne, autrice de la pièce Nunuche Underground. Bonjour, Laure.
Bonjour.
Commençons par le commencement. Peux-tu expliquer le titre de ta pièce, Nunuche Underground? Pourquoi Nunuche et pourquoi Underground?
Alors, Nunuche... C'est un mot que j'aime beaucoup et je le trouve assez rigolo. Je trouve qu'il ne se prend pas au sérieux. Je l'ai pris à Richard Brautigan, Nunuche, dans un de ses poèmes où il relate une histoire d'amour avec Grace, 17 ans. Et ça a été traduit comme ça, le début du poème, ça dit « c'est une vieille histoire, un peu nunuche ». Voilà le début de la mienne, une histoire un peu nunuche avec Rose, cette grande fille de 17 ans qui joue au prince et à la princesse dans sa chambre. Mais après, voilà, j'ai mis le petit court-circuit avec Underground qui est un référentiel totalement opposé, mais c'est quand même un peu les dessous de l'histoire d'amour en fait. Underground, il vient de dire, à partir de cette petite bluette comme ça, un petit peu à mièvre, on va aller explorer un peu les dessous, comme si on connaissait d'une ville que les parcs et les fontaines, et puis on disait, ben là, on va aller explorer les bas-fonds, on va aller explorer les catacombes un peu, et les méandres un peu plus noirs. Voilà, Nunuche Underground, c'est ce qu'on explore de cette histoire de cette fille et de Rose et de son histoire d'amour.
Tu m'as dit que Rose, l'héroïne donc dont on parle, qui est une adolescente, règle des comptes avec les choses et les gens. Voulais-tu dire que derrière le nunuche et le sentimental rose bonbon, se trame à tes yeux de grandes violences dans le monde de l'adolescence ?
Dans le monde de l'adolescence, comme dans le monde intérieur de chacun, j'ai eu envie qu'elle ait 17 ans, Rose, mais elle pourrait très bien vivre cette aventure-là à 25 ou 43 ans, avec un entourage qui aurait été différent. Mais c'est plus le parcours intime que la classe d'âge, pour le coup, là, qui parle de violence, et c'est plus ce fracas qu'amène l'amour quand il est malheureux, quand il n'est pas partagé, quand il est perdu, quand on ne l'a plus, que ce soit celui du garçon, celui de sa mère qui est probablement partie, le propre, son amour propre à elle. Et donc ces ravages, c'est cette sensation d'anéantissement, d'amputation, de violence, même dans la... Même finalement, dans les fantasmes, dans le désir, etc. C'est toute cette violence, en effet, qui est contenue au-dessous du monde sentimental, comme tu le disais, du monde rose-bonbon. Et c'est cette intériorité de l'amour et ces brisures comme ça, violentes, j'ai eu envie de les faire exister dans la pièce en les projetant à l'extérieur. Ça reste pas seulement l'intimité d'un personnage et son intériorité, ça sort et ça s'incarne et ça rejaillit sur tous les personnages autour. Qui prennent en charge comme ça ces fantasmes, les envies de vengeance, la projection d'idéaux, d'idoles et permettre que tout ça existe concrètement autour de Rose, et que ça soit pas seulement ses rêves, mais qu'en fait, advienne dans le monde réel autour d'elle toutes ces problématiques amoureuses qui existent en elle. Et j'ajouterais aussi qu'au-delà de Rose, il y a le personnage de Michael, son meilleur ami, qui est amoureux aussi, mais c'est un amour un peu rabroué, on va dire, de seconde zone dans l'histoire, et qui finalement s'avère être extrêmement violent, parce qu'on a des chances, des raisons de penser que Michael est responsable du drame de la fin, du crime qui arrive à la fin. Et voilà, pour te répondre... Je pense en effet que le sentimental peut être aussi extrêmement violent.
Parmi tes personnages, j'ai eu l'impression que la brutalité venait principalement du père de Rose. Un homme apparemment honnête, bon travailleur et mari attentif. Est-ce que j'ai tort ?
Non, en effet, le père a une bonne dose de brutalité, mais j'allais dire c'est presque une brutalité douce chez ce père, parce que c'est un père qui aboie beaucoup, qui est finalement très maladroit dans sa façon d'être avec cette jeune fille qui est la sienne, donc il ne sait pas vraiment quoi faire. C'est un homme qui est issu d'un milieu qui est sans doute rude, très populaire, mais je trouve que c'est lui qui a finalement le plus de quand je te disais brutalité douce, c'est peut-être pas le pire. Moi je crois que la violence et la brutalité, elle est répartie autour de Rose. Chez lui, elle est assez franche et elle se voit d'emblée, mais finalement elle n'est pas dans les actes, là où tu pourras rencontrer de la perversité plus chez son prof de lettres, Broman, des choses plus de vicieuses chez son camarade de Trouillet, Christian qui est aussi extrêmement violent et lâche avec elle, sa mère qui est castratrice. En fait, la violence, elle est démultipliée, et elle prend des aspects différents selon les personnages. Donc oui, le père est brutal, mais sans doute aimant. Je pense qu'il a beaucoup de tendresse, et il vient un peu comme la poésie de Brötigam vient en contrepoint de la littérature que Rose affectionne, les romans courtois, Tristan Iseult, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour trivial, très simple et très populaire, que le père amène et qui vient faire contrepoint avec ce qu'on pourrait qualifier de simagrée chez Rose et de maniérisme.
Ouais. Il y a de la série télé et de la BD US dans Nunuche Underground. Il y a le roman courtois, tu viens d'en parler, avec Tristan Iseult. Il y a Madame Bovary de Flaubert. Et les poèmes donc, dont tu viens de parler, du poète Richard Brödigan, qui se suicida en 84 à l'âge de 49 ans. Quel but poursuis-tu en t'appropriant ta version de ces univers et de ces ambiances qui traversent ta pièce Nunuche Underground ?
Je trouve que l'éclectisme de ces références, c'est peut-être ce qui donne le plus l'aperçu d'une intimité en fait, de quelqu'un. Par exemple, si on avait accès à la playlist de quelqu'un, qu'on y trouve toujours le même type de musique, on se dirait bon ben voilà, c'est quelqu'un qui aime le jazz, point. Et mais si on y trouvait à côté des standards de jazz un peu de Joe Dassin, un peu de Dylan, la Compagnie Créole, tout d'un coup on se dirait tiens voilà quelqu'un qui a une histoire, qui est passé par des endroits différents, et du coup j'ai l'impression que Rose c'était ça aussi, c'était ce mobilier intérieur un peu hétéroclite qui était la représentation de quelqu'un qui n'est pas comme ça monolithique, et puis qui est baigné de elle est ce qu'on pourrait appeler un peu un geek littéraire, donc elle est baignée de littérature, de littérature amoureuse, et puis elle est aussi imprégnée de la culture pop, de la culture états-unienne, américaine, les recours à ces ambiances-là. En fait, ils viennent de Rose. Rose, c'est notre référent dans la pièce. C'est à travers elle, en fait, qu'on voit les choses. On est dans sa tête. Rose, elle est dans chaque scène. Rien ne se passe en dehors d'elle. Donc, c'est un petit peu notre véhicule. Et en fait, elle, si elle est en train de se projeter dans un film noir, on va être dans les codes du cinéma de gangster. Si elle se projette un peu à un moment dans de la série, de la mauvaise série pour ados, et ben elle va être dans cette mauvaise série avec les discussions avec ses parents, etc. Si elle va être tout d'un coup dans un roman courtois, ben on l'accompagne là-dedans. C'est elle qui donne un peu le ton. Donc, et puis ça permettait du coup d'hybrider les choses vers la confusion, de permettre de ramener par exemple Emma Bovary un peu dans la pop culture parce qu'elle la croise en même temps que Brotigan. Enfin, c'est prendre plaisir à jouer avec ces référents qui ont du sens que pour Rose et qui, voilà, chez nous amènent un peu des télescopages, mais nous amènent à saisir un peu comme ça l'identité de ce personnage, quoi.
Dans notre conversation qui prépara cet entretien, après t'avoir écouté, je t'ai dit que Nunuche Underground est une pièce bizarrement optimiste. Tu me répondis, malgré tout ce qui s'y passe de sombre, ça va vers beaucoup de bonheur. Et dévoile ta pièce des adolescents et des adultes, tu y montres.
C'est vrai que quand on regarde comme ça d'emblée de la pièce, il y a beaucoup d'endroits de brutalité, parfois presque sordides, ou en tout cas de mal-être, d'inquiétude aussi par rapport à la santé psychique de certains personnages. Mais l'idée était vraiment quand même de s'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce phénomène un peu ressassé que parce qu'on est adolescent, on va forcément très très mal. J'espère surtout pas ça aux ados et je le vois vraiment très différemment. Et je crois que Rose est peut-être pas celle qui va le plus mal dans la pièce. Et en tout cas, l'idée, c'était que ce parcours underground là, qu'elle traverse tout au long de l'histoire, si on prend un peu une interprétation un peu plus symbolique des choses, en fait, tu parlais au début de l'interview de règlement de compte, elle règle énormément de choses avec elle-même, le fait de tuer le père, elle se coupe, elle laisse partir sa mère, hein, qu'elle laissait jamais partir, qu'elle convoquait sans arrêt alors que sa mère était absente depuis longtemps. Elle déboulonne aussi ce mythe du prince charmant en réglant son compte une fois pour toutes à Christian. Elle va vers elle-même, en fait. Elle a convoqué cette sorte d'ami, qu'on peut appeler ami imaginaire, cette sorte d'apparition. Et puis cet autre, il l'accompagne dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la réconciliation avec elle-même, même lorsqu'il l'entraîne vers le crime, vers le casse, etc. Et il l'amène à consentir aussi à la vie, au mouvement. Rose, elle est au début immobile, elle est pétrifiée dans une scène d'amour qu'elle ressasse en permanence, qu'elle rejoue, cette scène de Tristan et Iseux, sans sortir de sa chambre. Et puis ça se finit, elle a traversé la ville, elle a fait des tas de rencontres, elle a cassé des tas de barrières, et c'est en ça qu'elle va vers la vie, en tout cas, aussi bonne et aussi mauvaise qu'elle soit, mais en tout cas vers la vie. Et d'ailleurs, à la fin, l'homme au par-dessus, qui parle avec elle et qui s'avère être sans doute un psy avec qui elle débriefe un peu tout ça, lui conseille de garder ce personnage apparition au cas où il est à resservir. Et donc c'est en ça où ça a été un parcours, je pense, bienfaisant. Donc peut-être que c'est là que réside l'optimisme des choses.
Eh bien, merci pour cette conversation, Laure Poudevigne, autrice du Nunuche Underground. Et à bientôt.
À bientôt.
C'était Laure Poudevigne et son texte Nunuche Underground dans les bulles sonores de Texte en cours, édition 2020.
Une initiative de l'équipe de Texte en cours. Lionel Navarro, Silver Santin, Gabriel Bail. Merci à l'équipe de Salut Salut Internet à la Technique, réalisation et montage, Cristobal Desconnet et Adrien Rennes. Merci à l'équipe de lecture, Cyril Amiot, Hélène Debissy, Benjamin Duc, Mathilde Jaillette, Dag Jeanneret, Silver Santin, Anne-Juliette Vassor et Marie Vire. Merci à la maison Antoine Vitesse et à Five Tones. Merci à la ville de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole pour leur soutien. Et merci à Bellac Zoupon et la Baignoire, ainsi qu'à Gildas Milin et Mustapha Twin de l'ANSA de Montpellier et Émilie Chomel du Hangar Théâtre pour leur accompagnement dans l'enregistrement de ces bulles.